Tu es notre roi. Nous voulons, Seigneur, dans nos cœurs, avec nos vies, fléchir le genou devant toi. Reconnaître, Seigneur Jésus, ta royauté sur nos vies. Tu t'es racheté un peuple à grand prix, Seigneur, par ta fidélité, par ton humilité. Tu as démontré, Seigneur, à ton Père, combien tu étais digne d'être couronné, au-dessus de tout nom, élevé au-dessus de tout nom. Et Seigneur, tu t'es acquis un peuple. Reçois ce matin, Seigneur Jésus, notre adoration, notre allégeance, Seigneur. Nous te confions nos vies. Où tu vas, nous voulons te suivre, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Je vous invite à prendre place, à tourner avec moi dans le livre des Actes. Actes chapitre 13. Merci à l'équipe de louanges. C'est bon, Jonathan, d'être appuyé par des bons musiciens. J'étais content de voir les progrès de Claudia. Elle est allée servir en Colombie. Elle nous revient une meilleure pianiste encore. Elle a pris à pied levé comme ça la relève pour l'été. C'est vraiment une bénédiction. Merci. Merci à toute l'équipe. Acte 13. Acte 13. Mes frères et sœurs, ce matin, on a un matin pas mal spécial. De ce temps-ci, ils sont tous spéciaux. La semaine prochaine, on a les baptêmes. Ce matin, on a un matin pas mal spécial parce que nous avons une annonce importante à vous faire, une annonce très importante. Et c'est un matin spécial parce que nous avons le privilège de voir avec nos yeux comment Dieu fait avancer son œuvre au Québec. Alors, le temps de prédication, comme vous l'avez vu, je vous ai fait tourner dans le livre des Actes, va être particulier. On n'est pas dans Matthieu. On marque une pause dans l'évangile de Matthieu pour pouvoir vous partager, je crois, le texte que Dieu a placé sur mon cœur pour adresser cette annonce qu'on a à vous faire ce matin. Actes 13, les versets 1 à 5. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. C'est un passage important dans l'histoire de l'Église universelle. Dans l'histoire de l'Église, de cette époque-là, partout dans l'Empire romain, mais jusqu'à ce jour aussi, c'est un passage qui est important, car de ce ministère, de cet appel, allait naître un grand nombre d'églises. Personne ne pouvait lire ça dans l'avenir à cette époque-là, sinon celui qui met à part, sinon celui qui appelle, sinon celui qui accomplit à perfection ses desseins. Lui seul connaissait l'ampleur de ce moment, et nous, aujourd'hui, des années, des siècles plus tard, nous pouvons observer un petit peu mieux ce que Dieu est en train de préparer à ce moment-là. C'est donc un passage important, car il a un impact sur l'histoire, sur l'Église universelle. C'est aussi un passage important, car il s'agit d'un bouleversement dans la vie de deux individus, deux chers frères dans la foi, Paul et Barnabas. Ces gens-là ont vu leur vie bouleversée à ce moment-là. Ils étaient dans une équipe à Antioche, une église de plus en plus solide. Ils travaillaient au sein de cette équipe avec cette assemblée et Dieu les appelait à un ministère particulier. Eh bien, je crois que c'est ce passage que Dieu a placé sur mon cœur pour l'annonce que nous avons à vous faire ce matin. Et je pense qu'on va voir ensemble Nous allons voir ensemble à quel point il est approprié de nous tourner vers la parole de Dieu pour saisir davantage l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir et saisir la vision de Dieu aussi. Nous avons besoin de saisir la vision de Dieu. Et je crois que le passage est approprié pour le faire. Alors, sans plus tarder, plutôt que de vous garder en haleine plus longtemps, et cela d'autant plus que plusieurs d'entre vous êtes déjà au courant, l'annonce qu'on a à vous faire ce matin est une annonce dans laquelle il y a de la joie, beaucoup de joie, et en même temps de la tristesse. C'est un mélange des deux. On a à vous annoncer, j'ai à vous annoncer au nom du conseil, que Dieu a placé sur le cœur de nos chers Jean-Philippe et Catherine de quitter cette assemblée pour aller prendre un appel que Dieu a placé sur leur vie et aller s'occuper d'une autre assemblée comme pasteur principal. C'est après prière et recherche de la face de Dieu que tous les deux... Où est-ce que vous êtes, là, que j'arrête de vous chercher tout le long? Où est-ce qu'ils sont, Jean-Philippe et Catherine? Faites-moi signe. JP est là, puis Kat est où? Elle va revenir? OK, OK. Elle nous regarde sur la télé, hein, c'est ça? Catherine? Avec prière, avec une recherche de la face de Dieu, tous les deux en sont venus à la conviction que Dieu leur demandait de faire un pas de foi. Et ils ont eu cette conviction, ils sont prêts à faire ce pas de foi, d'accepter de se lancer comme ça, de quitter une situation plus sécure avec l'équipe et de grandir dans la foi pour aller servir une autre assemblée, Jean-Philippe à titre de pasteur principal. Et vous comprenez que c'est avec un mélange de joie et de tristesse qu'on vous annonce ça, des sentiments que nous avons traversés au sein du conseil déjà depuis quelques temps. Et tout à l'heure, je vais inviter Jean-Philippe à venir à l'avant. Vous pourrez tous aller saluer Catherine après. Excuse-moi, Catherine. Mais vous pourrez tous aller la voir après. Jean-Philippe va venir donner un mot de témoignage tout à l'heure pour vous partager comment Dieu a travaillé dans son cœur. Et c'est ça. Alors, on va commencer ensemble par un mot de prière, d'accord? Seigneur Jésus, comme on l'a chanté si bien ce matin, tu es roi. Tu es roi de nos vies, Seigneur. Tu t'es acquis ma vie à un très grand prix, Seigneur Jésus. Un prix qui te donne tout droit sur ma vie. Et j'aime, Seigneur, lire et entendre l'autorité de l'Esprit-Saint dans ce passage sur ces vies, Seigneur. C'est ça l'Évangile pour moi. Ce sont des vies que tu t'es acquises à un grand prix. Tu es à présent notre roi, notre maître, notre chef. Et tu as le droit d'accomplir ta vision et ta mission en appelant des individus à tout sacrifier et à faire un pas de foi pour toi. Je te prie, Seigneur, pour notre assemblée ce matin. Je te prie, Seigneur, de venir nous instruire par ton Esprit Saint. Non seulement appelles-tu Jean-Philippe et Catherine, mais tu nous appelles, nous, Seigneur, à regarder à ces deux frères et sœurs comme des modèles de foi, des modèles de sacrifice, des modèles de consécration, Seigneur. Qu'ils soient, Seigneur, à nos yeux, ces héros qui nous inspirent par leur pas de foi. Parle-nous, Esprit Saint, ce matin, à travers ta parole et à travers le témoignage des frères et sœurs qui se donnent pour toi. Je te prie, Seigneur, de mettre ta main sur notre cher Jean-Philippe qui va venir donner un mot de partage tout à l'heure, un témoignage. Viens, Seigneur, soit avec son cœur, soit avec sa bouche, édifie-nous, Seigneur. Enflamme-nous pour ta mission, Seigneur Jésus. Et conduis-les, ô Dieu, là où tu le désires. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors, avant d'inviter Jean-Philippe à venir vous donner un mot de témoignage, je voulais qu'on se penche sur les Écritures ensemble, qu'on puisse tirer des principes de la parole de Dieu d'un passage qui a tellement de points similaires avec ce qu'ils sont en train de vivre. Et donc, tout ce que je vais faire ce matin, c'est que je vais vous partager quelques observations afin de nous aider, et je crois que c'est Dieu qui m'a donné ce passage-là, afin de nous aider à voir la vision du Seigneur et de recevoir les instructions qu'il a pour nous aussi, car le Saint-Esprit parlait non seulement à Paul et à Barnabas, mais à toute l'équipe et à toute l'Église à cette époque-là. Premièrement, Dieu appelle. Il est évident dans le passage que Dieu appelle. On ne sait pas exactement comment, par contre. D'accord? On ne sait pas comment ça s'est passé. Tout ce qui nous est dit ici, c'est que pendant qu'il servait, on a une idée du moment. Le Saint-Esprit dit, comment l'a-t-il fait? Ce n'est pas clair dans le texte. Est-ce que c'est par un fardeau sur le cœur de Paul et Barnabas? Il dit de les mettre à part pour le service auquel il les avait appelés. Or, on sait déjà qu'au moment de sa conversion, Paul avait déjà une idée qu'il était appelé à souffrir de grandes choses pour le nom de Christ. Est-ce qu'il avait déjà conscience de cet appel? Et simplement, Dieu a conduit à ce moment-là pour dire, c'est maintenant que ça se passe? On ne sait pas. On n'a pas cette info. Il y avait des prophètes qui étaient là, dans l'équipe. Ça semble assez clair comme intervention. Ça semble être plus qu'une impression. Alors, est-ce que c'est par la bouche d'un des prophètes? Si vous êtes familier avec les actes, il arrivait à ce moment-là. Comme je crois aussi qu'il peut arriver des fois que Dieu va servir d'un frère, d'une sœur pour venir nous communiquer tranquillement la volonté de Dieu, certainement la confirmer. Est-ce que c'est ça qui se passait? Je ne sais pas. On n'a pas les détails. Ce qui est clair, ce qui est évident, c'est que Dieu appelle. Dieu appelle. Dieu a un appel pour nos vies. Il a des bonnes œuvres préparées d'avance pour nous. Dieu appelle. Et ce que je trouve fascinant ici dans ce passage-là, c'est l'autorité. L'autorité du Saint-Esprit. Il n'est pas en train de dire, regardez les boys, est-ce que vous pourriez avoir à cœur de vous donner un peu plus pour moi, de vous donner un peu plus pour Christ? Aucunement. Regardez bien comment est-ce que c'est dit. Le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part. » Dieu est en train de faire de la gestion de missionnaire. C'est littéralement ça qu'il est en train de faire. C'est le grand dispatcher céleste qui dit, « Voici où j'envoie mes troupes maintenant. » Ces deux-là ont cette mission-là à accomplir. Et ceci nous rappelle que Christ s'est acquis nos vies à un grand prix. Nous ne nous appartenons plus. Et j'oserais dire que si vous comprenez bien les Écritures, jamais nous ne nous sommes appartenus. Nous étions autrefois fils du diable, aujourd'hui fils de Dieu. Mais je ne m'appartiens pas, j'appartiens à Christ. Et l'apôtre Paul comprenait ces choses. Souvent, il commence ses lettres en se présentant lui-même comme serviteur de Jésus-Christ. Mais le mot est très, très fort. Ce n'est pas juste un service aux tables, c'est le mot « doulos » qui est là. Ça veut dire littéralement « esclave de Christ ». Paul comprenait très bien qu'il était esclave de Jésus-Christ, serviteur de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit avait tout droit, tout pouvoir, toute autorité de dire, voici votre nouvelle mission, les boys, car vous m'appartenez. Christ bâtit son Église et il commande. Et personnellement, j'y trouve un grand réconfort de savoir que j'appartiens à Dieu. Mon mandat à moi, ce n'est pas d'inventer où je m'en vais. Mon mandat à moi, c'est de chercher la face de Dieu, être à l'écoute de la direction de Dieu, être à l'écoute des frères et sœurs qui parlent dans ma vie, sa parole qui me parle, qui confirme des choses à travers mon service, et simplement entrer dans cette œuvre. C'est ça mon appel. Parce qu'il y a un maître qui dirige toutes choses, un propriétaire qui gère sa vision, son royaume. Et ça me fait du bien, c'est rassurant pour moi de voir ça. Ainsi, je vois que Dieu appelle. Ne travaille pas toujours de la même manière. On pourrait aller voir d'autres passages où on voit que Dieu appelle de différentes manières, mais c'est Dieu qui appelle. Deuxième observation, Dieu appelle des hommes et des femmes qui sont en service. Dieu appelle des hommes et des femmes qui sont en service. Et pourtant, il y a des conséquences énormes à cela. Le départ de Paul et de Barnabas allait faire un grand vide dans l'église d'Antioche. Imaginez un instant que sur l'équipe pastorale, je veux dire, Normand et moi, on serait tellement reconnaissants si on avait Paul et Barnabas sur l'équipe pastorale ici. Et là, Paul et Barnabas servent ici pendant plusieurs années, puis à un certain moment donné, Dieu dit, « OK, ces deux gars-là doivent partir. » Imaginez un instant l'impact que ça a. Mais Dieu appelle des gens qui sont en train de servir. Dieu appelle des hommes et des femmes qui sont actifs dans le service. Je fais partie du comité de candidature pour notre association. Notre secrétaire de l'association, Michel Habib, qui dirige tous les comités importants, tout ça au niveau de l'association, est appelé à un autre ministère au sein de l'association. Donc, il faut le remplacer. Moi, je fais partie du comité de candidature. On s'assoit ensemble, on est 7-8 hommes, on va dans la prière et on commence à considérer qui Dieu peut appeler à ce poste. Mais vous comprendrez que pour un poste comme celui-là, on ne cherche pas, on ne regarde pas tellement les gens qui sont assis sur le banc. Hein. C'est drôle, ils ne nous viennent pas à l'esprit. Alors, inévitablement, ce qui se passe, c'est qu'on cherche des gens qui sont à fond dans le service et qui vont créer un grand vide quand ils vont partir. C'est inévitable. C'est un casse-tête pour nous. Les premières fois qu'on a regardé ça, la majorité, on est des pasteurs autour de la table. Alors, on a un cœur pour les églises. Et là, si tu approches un pasteur d'une église, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir un impact. Il va avoir un impact qui va être là. On va dans la prière ensemble et on cherche la direction de Dieu. Dieu appelle des gens qui sont actifs dans le ministère. Et c'est un des principes importants dans notre service pour le Seigneur. Je le vois constamment dans les Écritures. On me l'a appris très, très tôt. Sers le Seigneur. Reste pas dans ton coin en ayant un rêve immense pour l'œuvre de Dieu. Sers le Seigneur et pendant que tu vas être dans le service, Dieu va t'appeler à quelque chose d'autre. Mais n'attends pas dans un coin un message où le Saint-Esprit vient dire au pasteur, « Va chercher cet homme-là qui est assis là-bas, cette sœur-là qui est assis là, et puis je l'appelle pour un grand ministère. » Il pourrait le faire comme ça. Moi, il me semble que ce serait moins dérangeant. Ce n'est pas comme ça qu'il travaille. Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille la majorité du temps. Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Lisez les Écritures, ce n'est pas comme ça qu'il travaille. Dieu appelle ceux qui sont en train de servir. Entre dans l'œuvre à fond. Donne-toi. Dieu va confirmer, Dieu va déplacer, Dieu va te former. Et à travers ce service-là, Dieu va préciser l'appel qu'il a placé sur ta vie. Dieu appelle des hommes et des femmes par conséquent qui sont reconnus pour leur maturité aussi. S'il appelle des gens qui sont en train de servir, il appelle des gens qui sont reconnus dans l'Église pour leur maturité, pour leur don. C'est ça qu'il est en train de faire. C'est intéressant de remarquer que Dieu a appelé deux hommes qui étaient des ressources extrêmement importantes à Antioche. Tout le monde les respectait, ces gars-là. Ils étaient respectés, ils étaient aimés. Et en fait, je suis certain que lorsque Dieu a dit à l'équipe pastorale d'Antioche, lorsqu'il leur a dit « Mettez à part ces deux hommes-là », je suis certain que Paul et Barnabas étaient tellement respectés et appréciés pour leur maturité, pour leur don, pour leur service, que le reste de l'équipe n'a pas vraiment été surpris de l'appel. Je suis sûr qu'avec un sourire en coin, le reste de l'équipe a dit « Fallait bien s'y attendre. » Ça va de soi. Et je peux vous partager qu'au moment où Jean-Philippe m'a partagé ce que Dieu est en train de placer sur son cœur, après les larmes, après le trouble, plus je l'entendais parler, plus je me disais, c'est clair que ça vient de Dieu. Ça vient du Seigneur. J'ai même poussé ma loque. J'ai fait ma meilleure offre possible. On va juste aller voir, c'est vrai. Une offre qu'il ne pouvait pas refuser. J'ai dit, mets ça dans la prière, là, JP. Ça venait de Dieu. Ça venait de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Il appelle des gens matures et respectés pour leurs dons. C'est ceux-là qu'il vient chercher. Il les appelle dans leur service. Il les appelle dans leur maturité. Alors évidemment, comme Dieu appelle des ouvriers qui sont dans le service et qui sont utiles, bien, Dieu appelle des ouvriers qui vont laisser un vide derrière eux. Comprenez que ce sont ceux qui sont actifs dans l'œuvre, ceux qui sont en train de bâtir l'Église, qui, lorsqu'ils quittent, laissent un vide. Ils laissent un vide d'amour derrière eux. Ils laissent un vide de service derrière eux. En fait, mon impression, c'est qu'entre Paul et Barnabas, celui qui allait être le plus manqué, c'est Barnabas. Vous savez, il y a des gens qui ont un don pour se faire aimer, dans le bon sens du terme. Barnabas était un fils de consolation. C'était celui qui est au courant de ce qui ne va pas bien dans l'Église. C'était celui qui remarque les choses. C'était celui qui va vers les personnes. Jean-Philippe est un Barnabas. Jean-Philippe est un Barnabas. Il a un cœur comme ça. C'est un don que Dieu lui a donné. Et j'ai l'impression que, entre Paul et Barnabas, celui qui allait être le plus manqué, c'est Barnabas. Paul, c'est un « doer », comme on dit en français. C'est un homme d'action. C'est un homme qui accomplit des choses, qui se sacrifie. On bénit le Seigneur pour cela. On bénit le Seigneur lorsqu'on les voit aller implanter ailleurs. Jean-Philippe, c'est un Barnabas. Et c'est certain que le départ de Jean-Philippe et Catherine, avec leur bel accueil, leur bel amour, leur chaleur, va laisser un trou. C'est inévitable. Mais en même temps, lorsque je regarde Jean-Philippe, et j'ai eu le privilège à travers les dernières années de passer plus de temps avec lui ensemble, dans des rencontres, à discuter ensemble du ministère, bien, il y a quelque chose qui se passe en Jean-Philippe où ce Barnabas qui est là en lui, il me semble que je vois émerger de plus en plus un Paul en Jean-Philippe. Et là, Paul est en train de bousculer Barnabas un peu. Est-ce que peux-tu, Jean-Philippe? Est-ce que peux-tu? Laisse pas éteindre Barnabas. Laisse-lui toujours sa place. C'est ta touche à toi, ça. Un vide d'amour. Un vide d'amour. C'est évident. Barnabas, c'était celui qui est en train de consoler constamment. Vers qui on va se tourner? Les autres gars, c'est des doers sur cette équipe-là. Les autres gars, c'est des hommes d'action. Qui va nous écouter si Barnabas s'en va? Qui va aller faire tous les sacrifices si Paul s'en va? Qui va aller défoncer des portes? Qui va être respecté comme Paul s'il s'en va? Un vide d'amour, un vide de service. Et je suis certain que lorsque la rumeur a commencé à courir dans l'église d'Antioche que Paul et Barnabas s'en venaient, il y a plein de monde qui ont eu de l'inquiétude. Je veux dire, pensez-y, essayez, si vous êtes familier avec ces deux personnages-là, essayez d'imaginer combien de ministères étaient sous la charge de Paul et Barnabas. À ces deux hommes-là ensemble, vous aviez le ministère d'évangélisation, le ministère de traité de littérature et d'écriture. Vous aviez des responsables probablement de 5 petits groupes chacun. Vous aviez tout le ministère de counseling de l'Église qui était là. Vous aviez le ministère de discipline qui était là. Quand ces gens-là ont commencé à laisser entendre dans l'Église qu'ils s'en allaient, il y a du monde qui ont commencé à paniquer à Antioche. Qui ont voulu faire appel à Dieu et de m'en questionner la direction du Seigneur. Est-ce que vraiment ça vient de Dieu, cette affaire-là? On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. La relève n'est pas prête. Un vide de service. Mais j'ai appris avec les années à observer que Dieu travaille comme ça. Dieu travaille comme ça. C'est généralement comme ça qu'il travaille. Or, quelques rares occasions, il y a une espèce de départ parfait qui est planifié où tu as une relève qui est là. Quelques rares occasions. En général, la mission, c'est une urgence. Et vous regardez comment Paul implantait ses églises. Il les implantait, puis s'il était capable, il nommait des anciens. S'il n'y avait pas d'homme qui était prêt à être nommé comme ancien, il partait implanter une autre église, puis il revenait, puis il regardait aller, puis il disait, « Oh, celui-là, dans 2 ans, OK, on continue le travail. » Là, il envoyait un de ses associés pour continuer à former les gars. Il revenait, « OK, il y en a un qui est prêt. OK, tu es en charge de l'église, mon grand. On se revoit dans 3 ans. » C'est constamment comme ça. Voyez-vous? Constamment. Pourquoi? Parce qu'il y a des millions d'âmes à aller chercher pour le royaume. Il y a une urgence jusqu'au retour de Christ qui nous bouscule constamment en avant. Voyez-vous, si on avait des listes de ceux qu'on doit atteindre, qui sont les élus, puis si on pouvait systématiquement travailler, on ne gérerait pas les choses comme ça. Mais chaque âme qui meurt est une âme à aller gagner pour Christ. Et par le fait même de cette mission, il y a une espèce d'urgence qui s'installe dans notre service, qui nous bouscule en avant et qui fait que Dieu travaille en laissant des vides parce qu'il en appelle d'autres à prendre la place. Dieu laisse des vides parce qu'il en appelle d'autres à prendre la place. Et c'est ça que ça veut dire pour l'Assemblée ici. Chaque fois que vous voyez quelqu'un quitter, si son cœur était au service ici, son cœur va être au service là-bas. Il va aller donner pour la mission. Et le trou qui est laissé ici, c'est l'un d'entre vous qui doit prendre la place. Ou plusieurs d'entre nous qui devons prendre la place. C'est comme ça que Dieu travaille. Et c'est comme ça que Dieu nous fait grandir. Si vous me connaissez personnellement, vous avez vu mon parcours de formation dans l'Église ici. J'ai vraiment toujours eu l'impression de me faire mettre des charges un peu trop lourdes sur mes épaules, un peu trop tôt. On dirait que c'est comme ça que Dieu travaille. Un peu trop lourd, un peu trop tôt, pour qu'on soit obligé de dire « Ma grâce, ta grâce me suffit. » Tout le temps. « Ta grâce me suffit, Seigneur. » On est en formation. Alors, Dieu va continuer à le faire ici. Maintenant, pour apprécier cela, il faut que ceux qui sont appelés et que ceux qui envoient aient une vision claire pour la mission. Et j'aimerais, et c'est notre vision, c'est notre désir au conseil, nous aimerions que vous saisissiez ce matin ce que le Saint-Esprit est en train de dire à cette assemblée. Pour moi, c'est clair, c'est la mission. Dieu nous bouscule et nous provoque vers la mission. Ça nous demande d'avoir une vision claire. C'est quoi notre mission? Sauver, entre guillemets, aller prêcher l'Évangile afin que Dieu sauve, former et envoyer. Ça, c'est notre mission. Sauver, former et envoyer. Et il nous faut apprendre, comme assemblée, à se réjouir de ces moments où nous envoyons. Parce que ça va nous donner la possibilité de former. Et eux vont entrer dans la mission. Voyez-vous, c'est ça le cycle. J'aimerais inviter Jean-Philippe à venir à l'avant, venir me rejoindre, vous donner un mot de témoignage, et puis je vais revenir à la fin pour terminer.
Ça fonctionne? Vous m'entendez? Beaucoup de belles choses. Yannick, merci beaucoup. Beaucoup de belles choses. Merci beaucoup, Yannick. Vous savez que mon entrée dans le ministère n'a pas été marquée par beaucoup de foi, mais plutôt un manque de foi. Et puis, quand je regarde en arrière, Dieu a mis le poids sur mon cœur de lui offrir ma vie pour le ministère à temps plein. J'étais à l'école biblique. J'y allais pour un an, puis je suis resté 4. Et puis, quand je suis sorti de l'école biblique, le ministère pastoral, ça me faisait peur. Fait que j'ai choisi une autre avenue. Pendant 5 ans, j'ai servi au sein des ministères de mission auprès des enfants, mission auprès des défavorisés, auprès des adolescents. Alors, j'ai servi un an aux États-Unis, 4 ans à Montréal, au centre-ville. Et puis, pour vous dire franchement, je regardais mon père, qui est un pasteur. J'ai grandi dans une famille de pasteurs. Je regardais mon frère, mon grand-père, qui est un planteur d'église et pasteur. Puis j'avais peur. Puis je pense que ça a été facile pour moi de choisir un ministère d'évangélisation. Un ministère qui était hors de toute la complexité de ce que Dieu fait dans l'église locale. Et puis, j'étais trop jeune, je vais me planter, là. Et puis, après quelques années, Dieu est venu cogner à ma porte, puis Yannick et Normand sont venus cogner à ma porte, puis on dit, on cherche un pasteur jeunesse. Puis là, j'ai rencontré Yannick et Normand, je les ai écoutés, mais je suis retourné chez nous, puis j'ai dit à Catherine, en tout, ça ne m'intéresse pas. Je suis bien. Le Seigneur, il nous bénit dans le ministère auprès des enfants, l'évangélisation, c'est excitant. Et puis, quelques semaines, j'ai réfléchi, puis là, Seigneur a mis des pensées sur mon cœur, comme Jean-Philippe, est-ce que tu veux juste faire d'évangélisation pour moi toute ta vie, ou tu aimerais participer à ce que je fais dans l'église locale? La formation de disciples, la croissance des petits, des grands, des aînés, l'enseignement. Et puis, ma réponse était, non, je veux faire plus. J'aimerais ça faire, participer à ce que tu fais dans l'église locale, Seigneur. Alors, quand j'ai rencontré Yannick et Normand, j'avais autre chose dans mon cœur qui avait porté fruit. Puis j'ai dit à Catherine, j'ai dit, t'es-tu prête? On changerait de... Et puis là, on va avoir deux responsabilités, la bouffe pour tous, le ministère de compassion, la pastorale jeunesse, puis là, c'était excitant. Et puis, c'était sécurisant de travailler dans une équipe. Puis, j'avais peur encore, mais c'était sécurisant, c'était différent. Et puis, au fur et à mesure, j'ai grandi. Quand j'y pense, on a tellement beaucoup plus reçu parmi vous qu'on n'aura pu jamais donner. Le nombre de vous qui nous avez aimés, qui nous aimez, et puis tout ce qu'on a appris à vos côtés, avec le conseil. Et puis, Dieu est venu cogner à notre porte au mois de février, alors qu'on cherchait la direction. On avait mis devant Dieu le ministère Bouffe pour tous. On avait choisi, j'avais choisi moi-même dans la prière de dire, il faut que je laisse la place à un autre. Je me sentais comme un obstacle à l'avancement de Bouffe pour tous. Il y avait tellement de besoins, puis j'étais limité à 3 jours/semaine, et puis des heures intenses. J'ai dit, Seigneur, il faut quelqu'un d'autre qui peut mettre toute la semaine à temps plein. Le Seigneur a pourvu avec les Maltais. On glorifie Dieu pour la famille Maltais. Et puis, les gars, ils ont dit, Jean-Philippe, qu'est-ce que tu fais, là? On n'est pas prêt à t'engager à temps plein. J'ai dit, je sais, c'est correct. Je trouve un travail à temps partiel. Et puis, on a rediscuté de ça. Et puis, les plans ne vont pas toujours comme on voudrait. Et puis, le ministère à temps plein ici à l'église n'était pas prêt encore. Le timing n'était pas bon pour plusieurs raisons. Et puis, nous, on dit, c'est pas grave. On reste et puis on va chercher un travail à temps partiel, hors du ministère, et puis on se fera des contacts pour l'Évangile. Et puis j'étais en paternité 5 semaines, et puis dans mon cœur, j'étais entier, rempli d'amour, rempli de conviction, parce qu'il y avait cet amour-là que je ne pouvais pas nier, puis Dieu m'appelle à continuer. Et puis, en même temps que Dieu m'a... Je chantais cette conviction-là. J'ai trouvé un travail à temps partiel, payant. Hey, merci Seigneur. Et puis, j'ai découvert que j'éprouvais de la tristesse à l'idée d'aller travailler dans un travail, et puis alors que mon cœur soupirait à servir Dieu à temps plein. Et puis, j'éprouvais de la tristesse qui était là. Et puis, je sondais la parole de Dieu. Puis je vais vous lire un passage qui a fait partie de la méditation que Dieu a utilisé pour nous faire réfléchir. C'est dans Luc 14. On parle du poids de foi d'engagement d'un disciple. Quelqu'un qui contemple la foi en Jésus-Christ. Verset 26, ça dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Hey, quelle belle parole, hein? Et puis, tout un pas de foi. Dire, Seigneur, OK, je suis prêt à faire un pas de foi, même si ça implique perdre des gens que j'aime. Il y avait un pas de foi ici. Pour avoir plus, il faut être prêt à faire un pas de foi. Pour aller une étape plus loin, il fallait marcher par la foi. Il y a un autre verset plus loin, au verset 33, qui ça dit, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Et puis, ce verset-là venait alors que dans mon cœur, je me disais, « Seigneur, ça se peut-tu qu'on serait appelé à quitter? Ça se peut-tu que si dans notre cœur, tu fais grandir un désir, puis qu'on reste les choses tranquilles parce qu'on est bien, parce qu'on aime cette assemblée, puis qu'on est prêt à dire, bon, mais je renonce à, pour l'instant, pour je ne sais pas combien de temps, le ministère à temps plein. Dans notre cœur, cette chose-là pesait. Et puis, c'est comme si le Seigneur nous disait, si tu veux plus, il va falloir que tu fasses un pas de foi. Mais Dieu, si un pas de foi, ça veut dire que je quitte l'Église? Ça veut-tu dire que ce serait ça que tu me dis? Ce serait ta direction? Et puis, j'en ai parlé à Catherine. Puis là, Dieu a fait grandir cette conviction-là que oui. Jean-Philippe, ton cœur veut plus. Ton cœur est disponible à Dieu pour plus. Moi, c'est ce que je vais utiliser pour te diriger quelque part d'autre. J'ai quelque chose d'autre à te faire que je veux que tu fasses. Là, j'ai dit à Catherine, j'ai dit, tu sais, des fois, Dieu, il peut nous appeler à une église loin. Il y a des sacrifices. En même temps, Dieu peut peut-être nous appeler à une église qui n'a pas de pasteur. Puis, waouh, c'est excitant. Mais ça se peut que ce soit loin. Catherine, je te parle d'un pas de foi, mais je ne sais pas ce que ça coûte. Je ne peux pas dire ce que ça va te coûter. En fait, il n'y a pas personne qui a cogné à notre porte pour nous inviter à leur église. C'est nous, là, qui brûlent une conviction dans notre cœur. Et puis, d'une décision déchirante. Et puis, on est allé de l'avant. On a parlé avec Michel Habib à l'association. On lui a partagé ça. Il dit, Jean-Philippe, tu veux-tu réfléchir à ton affaire? T'es-tu sûr? T'es-tu... convaincu, ta femme est appuyée à 100%, Et tu veux-tu y réfléchir? On prend quelques mois, Jean-Philippe, puis je dis à Michel Abib, j'ai dit, non, je suis convaincu. En fait, ça fait assez longtemps que je marche par la peur de faire un pas de plus pour le Seigneur. Dieu a utilisé l'Église de l'espoir pour nous faire grandir et puis peut-être nous faire maturer beaucoup. Puis Dieu cogne à ma porte pour un pas de foi, puis je suis prêt à le faire à ce point-ci. J'aurais pas été prêt à le faire avant. Et puis, alors on a fait des démarches. Tu as ouvert des portes. Une église qui nous a invités à venir les visiter il y a quelques semaines. Les démarches qui sont en avant. Et puis, cette église-là fait un vote ce matin. Ils sont enchantés. Ils souhaitaient un jeune couple qui viendrait. Et puis c'est loin. C'est loin. Et puis, on va découvrir que le ministère de la parole de Dieu... pastoral, des fois, ça nous emmène loin. On est rempli de conviction et de joie. En même temps qu'on est... non. Qu'on est rempli de tristesse. On est rempli de... On est déchiré. Parce que lorsqu'on est venu à l'Église de l'Espoir, on venait pour longtemps. Et puis... la place que vous avez dans notre cœur, c'était pour longtemps. On n'était pas de passage. Puis, en fait, il n'y a rien qui nous aurait fait quitter, que ce soit la trahison, la médisance, quelle que soit l'épreuve qu'on aurait pu subir de des gens, on s'était engagé devant Dieu à dire, on reste coûte que coûte. Et... c'est presque toujours de la joie, puis quelquefois, il y a des douleurs. Mais il n'y a rien qui nous aurait fait quitter. Et puis, à ce point-ci, il y a quelque chose qui nous fait quitter. Parce qu'on est convaincu que ça glorifie Dieu. Alors, on vous partage ça d'un cœur brisé, mais on vous partage ça aussi avec de la joie. D'aller là où Dieu nous veut. Et puis d'aller là où ce que Dieu nous a montré clairement. Et d'aller, quel que soit le prix. On a été reçus par le conseil avec beaucoup de foi, avec beaucoup de vision. Vision qui sortent de leur propre profit, leur propre confort, leur propre bien-être. Et puis, ils nous ont appuyés. Ils nous ont communiqué leur amour. Et puis, on est bénis. On aimerait aussi vous communiquer notre amour. Vous communiquer à quel point on a reçu, ma femme et moi. Et puis, tout un défi de quitter ceux qu'on aime. Et ça a été beaucoup plus facile de quitter l'Église où ce qu'on a servi, où ce qu'on a été membre, avec mes parents. Beaucoup plus facile de quitter là que de vous quitter. Et l'idée de vous quitter dans les prochains mois. Mais on regarde à Dieu, rempli d'espoir, de joie, parce que notre vie va servir à quelque chose. Et il y a un pas de foi pour la prochaine saison de ministère.
La question qui était posée, c'est est-ce qu'on peut savoir quelle assemblée? Dimanche prochain, Dieu voulant, vous allez savoir quelle assemblée. Ça va nous faire plaisir de vous le mentionner. Ça dépend. Si la voiture a été fabriquée en Amérique latine ou... Et ça dépend encore qui la conduit. Ah, OK. Je pourrais faire le calcul. Je te dirai ça dimanche prochain. C'est pas un adieu ce matin, c'est pour ça qu'on garde ça en toute simplicité comme cela, évidemment. On a quand même la grâce de pouvoir vous l'annoncer, puis dans quelques semaines, si Dieu dirige comme ça, Ce sera plus le moment des au revoir, qui ne seront pas des adieux non plus, évidemment. Voyez-vous, c'est ça l'œuvre de Dieu sur la terre. Nous sommes de passage, nous sommes engagés dans un combat spirituel en train de racheter le temps jusqu'à ce que Christ revienne. C'est ça qu'on est en train de faire. Et ceci va coûter de nombreux déchirements, mais c'est pour une joie supérieure, celle de voir des âmes venir à Christ. C'est exactement le calcul que Christ a dû faire lorsqu'il a accepté d'endurer des souffrances, parce qu'il contemplait l'idée d'une joie supérieure, celle de glorifier son Père, de présenter un peuple qu'il aurait racheté à son Père, une épouse précieuse qu'il aurait rachetée. Et c'est l'appel qui est placé sur nos vies. Dieu avait commencé à me l'apprendre personnellement il y a quelques années quand Hugo et Lynn ont décidé de partir. Pour moi, ça a été un des plus grands déchirements de ma vie. Je dirais, après probablement la crise dans la familiale avec le divorce de mes parents quand j'étais jeune, ça a été un des moments les plus difficiles dans ma vie. J'ai senti le coup rentrer pendant un an et demi après leur départ. Mais j'ai appris à cause de la vision du royaume à me réjouir de ces déchirements-là. Et ce n'est pas par romantisme, mais en même temps, je souhaite en vivre de nombreux encore. J'espère par la grâce de Dieu que moi ou vous, nous serons nombreux à quitter cette assemblée dans les prochaines années, en faisant des pas de foi. Ce n'est pas des crises, ce n'est pas des conflits, c'est une vision, un appel et un pas de foi. Parce que le royaume, c'est ce cycle où nous allons pour gagner des âmes pour Christ, nous les formons et nous les envoyons. Alors nous voulons vous demander de prier premièrement pour les Lapierre au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Priez pour eux afin que Dieu dirige tout aussi bien dans l'appel de l'Église que dans ce désir de partir. Priez pour eux afin que Dieu les prépare aussi à ce départ-là. Si Dieu confirme ce qu'il est en train de préparer, la famille ne sera pas aussi grande. Les ressources ne seront pas aussi nombreuses. Priez pour les Lapierre afin que Dieu les console. J'aimerais vous demander de prier spécialement pour la jeunesse. Priez pour la jeunesse. Jean-Philippe est un Barnabas. Catherine et lui sont des gens accueillants et chaleureux. Il va y avoir un vide de laisser dans le cœur de plusieurs. Jean-Philippe est de ceux qui accompagnent, qui marchent à côté d'eux. Il y a des amitiés, des affections qui se développent, qui restent, mais ça demande un pas de foi, de maturité à ceux qui laissent aller aussi. Priez pour la jeunesse. Et priez pour vous. Comprenez ce que Dieu est en train de nous dire ce matin. Je vous demande à tous ceux d'entre vous qui avez donné votre vie à Jésus-Christ d'aller demander à Dieu quel appel il place sur votre vie. Priez pour vous, afin de savoir ce que l'Esprit-Saint a à dire pour vos vies, pour combler des vides qui vont être là avec le départ des Lapierre, mais pour un jour partir à votre tour. Et ça va être notre plus grande joie de nous dévouer à nous investir dans vos vies, afin que Dieu vous envoie ou que Dieu nous envoie dans son œuvre. On va prier ensemble et je vais inviter l'équipe de louanges à venir nous conduire dans un dernier chant. Seigneur Jésus, tu t'es acquis nos vies à un prix tellement grand. Nous t'appartenons, Christ. Et nous sommes dans cette course, Seigneur, où il est précieux de racheter le temps pour cette mission, pour aller gagner des âmes, bâtir des églises, implanter des églises partout où il n'y en a pas, Seigneur, aller atteindre ces âmes. Seigneur, je te bénis pour Jean-Philippe et Catherine, je les ai vus grandir de mes yeux, Seigneur. Pendant quelques années, nous avons eu le privilège de les servir, de les accompagner, d'être servis par eux pour quelques années seulement, Seigneur. Mais c'est beau de voir cette foi qui grandit, ce courage que tu donnes, cette dépendance croissante envers toi, Seigneur. Je te prie pour Jean-Philippe et Catherine, Seigneur, pour leurs enfants. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, ô Dieu. Que ta grâce les accompagne. Que ta bénédiction repose sur eux, Seigneur. Et bénis l'assemblée qu'ils iront servir. Place autour d'eux des gens aimants qui vont les entourer, les conseiller, les soutenir dans la prière, Seigneur. Apprends-nous à être fidèles pour ces missionnaires qui quittent la maison, Seigneur, dans la prière. Je te prie, Père, pour ceux qui laissent derrière et qui ont besoin à leur tour de faire ce pas de foi, de fixer les regards sur Christ seulement. Ceux que tu appelles à prendre la relève, Seigneur, et qui devront faire à leur tour un pas de foi pour prendre des ministères auxquels ils ne se sentent pas prêts, Seigneur. Je te prie de susciter dans leur cœur un appel qui vienne de toi, qui amène des remises en question comme celles que Jean-Philippe et Catherine ont vécues. Certains qu'ils devaient rester, tu as changé leur vision, leur pensée. Je te prie pour ceux ici, Seigneur, que tu appelles à prendre la relève. Et je te prie pour chacun d'entre nous, tous ceux qui t'appartiennent, Seigneur. Montre-nous l'appel que tu places sur notre vie, dans notre service. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Seigneur. Nous te bénissons, nous voulons nous donner pour toi, Seigneur. Nous attendons ton retour et nous voulons vivre chaque jour ici-bas, dans l'attente impatiente de ton retour, Seigneur Jésus. Tu es notre roi. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît, on va chanter ce beau credo de foi ensemble.